Bonjour et bienvenue sur Fréquence 7 dans le journal des rencontres, en direct des rencontres des cinémas d'Europe. On est toute la semaine au studio 103 du centre Le Bourneau, où on a posé nos valises et nos studios. Et aujourd'hui, Claude Schmitz est notre invité pour parler de L'autre Lorenz. Alors c'est René qui est à mes côtés, qui a vu L'autre Lorenz, qui a eu le plaisir de le voir. Un grand plaisir, apparemment.
J'ai effectivement eu un grand plaisir à voir ce film, qui est un vrai film de cinéma. On va entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien.
Oui.
Alors, vous avez d'abord Bonjour, une question toute Bonjour. Simple. Bonjour Claude, d'abord, oui. Vous avez choisi de tourner ce film dans les Pyrénées-Orientales. Alors, pourquoi ce choix?
Ok. Alors, pourquoi ce choix? Parce que... En fait, il y avait... Le film, il joue un petit peu avec des faux-semblants, des choses qui ont à voir avec des récits, en fait, qui sont apportés en fait de tout un tas de films américains que j'ai vus en fait quand j'étais adolescent, et le film parle un peu de l'effondrement en fait de tous ces récits là en fait dans mon imaginaire. Et donc j'ai essayé de trouver chez nous, du côté de chez nous, enfin du courant d'Europe quoi, en fait des endroits qui soient en fait des espèces de des endroits qui rappellent en fait des configurations qu'on a pu retrouver en fait dans des films américains, ou des architectures ou des topographies. Et notamment, il y a cet endroit qui m'avait interpellé, qui se trouve à la frontière française et espagnole, et qui est cette zone un peu étrange où, qui peut parfois faire penser un peu une sorte de fausse frontière mexicaine. Voilà. Et donc, il y avait aussi un bâtiment aussi qu'on avait trouvé, qui est une réplique.
Le château, là.
Oui, voilà, qui est une sorte de... C'est pas une réplique, mais c'est vraiment le modèle original qui a servi en fait à faire la Maison Blanche de Washington. Donc je pourrais en parler un peu après, mais il y a plusieurs comme ça lieux où
qui renvoient à autre chose.
Qui renvoient à autre chose, voilà, exactement. Et donc cette frontière espagnole, franco-espagnole, voilà, quelque part, quand je me suis promené là-bas, il y a des endroits où je me disais, tiens, c'est marrant, on a l'impression d'être quelque part dans cette espèce de frontière avec le Mexique. Ouais.
Alors, c'est peut-être mon impression, mais il me semble que dans la première partie du film, il n'y a pas énormément de choses qui illustrent, qui montrent la région proprement dit. C'est dans la deuxième partie du film, à cause du scénario, que là, on voit vraiment la région.
Ouais.
Mais dans la première, les choses sont filmées de plus près,
oui,
d'une certaine façon.
Mais c'est aussi que dans la première partie, ça commence à Bruxelles. Hein, donc on a Jade qui va venir rencontrer son oncle, qui est donc détective privé. Et puis ensemble, ils vont partir... vers le sud, quoi. Donc, effectivement, on arrive, il y a un voyage, ça commence comme une sorte de petit road movie, on va dire, et puis ils arrivent quelque part là-bas, du côté de Perpignan. On ne sait pas très bien où. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on joue sur une sorte de topographie qui en même temps est réelle et en même temps imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui sont... Enfin, moi, j'ai essayé de respecter des trajets, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les routes, en fait, elles mènent véritablement... Enfin, les routes sont correctes, quoi, je veux dire, dans le film. Mais en même temps, voilà, il y a une part de fantasmatique aussi, quoi. C'est-à-dire que le film n'est pas... C'est pas un film documentaire non plus.
C'est pas non plus un film réaliste au sens strict du terme, bien sûr.
Oui.
Alors, oui, justement, donc c'était ça le choix des décors dans la première partie. D'accord, décors qui sont, effectivement, ce que je voulais dire, c'est mon sentiment peut-être que dans cette première partie, c'est plutôt un décor tel qu'on les voit dans les films américains, des bars, des bistrots, des choses comme ça, des intérieurs. Il y a un peu de ça quand même.
Oui, après, c'est quoi la première partie en fait?
Ce que j'appelle la première partie, c'est jusqu'au moment. Oh, c'est la première heure du film au moins.
Ah, la première heure, oui, d'accord. Oui. Et après ça.
C'est après que les PO se révèlent en quelque sorte. Enfin, ouais. Ou apparaissent davantage, quoi.
Oui.
En tant que tel, je veux dire.
Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui s'ouvre sous la. Après
c'est plus une exigence du scénario peut-être.
Oui, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui, en fait, enfin, bon, je suis d'accord. Après une heure, je dirais pas que c'est la première partie, mais enfin, disons au centre du film, du film, il y a une sorte de pliure comme ça qui ouvre tout d'un coup sur des paysages plus vastes, et
bien sûr,
fantasmatiques parfois.
Mais ça, c'est pas un accident, bien sûr.
Non, c'est pas vraiment un accident. Non. C'est vrai que c'était un peu pensé comme ça. Mais, ouais. Parce que je voulais faire aussi un film où il y avait une sorte de... Comment dire, quelque chose qui commence... En fait, c'est un film qui n'arrête pas de muter, quelque part.
On en parlera, oui.
Voilà. Mm-hmm. Donc, il commence comme une sorte de... Ça commence comme une sorte de film noir, un peu. Et puis, ça va vers le drame familial. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ça, on rentre dans un film qui ressemble à un mauvais film d'action américain, mais qui serait en bout de course, quoi. C'est-à-dire avec des personnages qui sont un peu trop vieux pour...
Il y a une dimension parodique,
ouais.
on va y venir. Alors, oui, j'aimerais que vous nous parliez maintenant, avant de parler de tout ce que vous venez d'évoquer rapidement, j'aimerais que vous nous parliez de la direction d'acteur,
oui.
Dont j'imagine qu'elle a été l'objet d'un soin tout particulier, vu sa complexité, à mon avis. Mm-hmm. Parce que les acteurs disent, par exemple, ils disent quelque chose, ils s'interrompent, puis ils reprennent. Ça suppose un sens du timing qui n'est pas évident. J'imagine que vous avez beaucoup travaillé ça.
Bon, alors moi, la particularité, c'est que je viens du théâtre. Donc, ouais, pendant 20 ans, j'ai fait du... Enfin, je continue d'ailleurs à en faire hein, du théâtre. Hein. Donc, je suis metteur en scène de théâtre à la base. Et donc, je pense que donc, la particularité de... Bon, en tout cas, il y a quelque chose que j'aime faire, c'est les plans séquences. C'est-à-dire les plans où on a deux acteurs qui...
Qui sont un peu livrés à eux-mêmes, alors. Là.
Qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Et en fait, le rythme vient de l'intérieur du plan, quoi, et ouais. pas de l'extérieur. Donc, c'est ouais. pas le montage qui va... Ouais. Donc, qui va rythmer la situation, la séquence, mais c'est vraiment les acteurs qui vont prendre en charge le rythme de la situation. Donc voilà, ça donne un peu ce rythme particulier. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire. Et par ailleurs, c'est je travaille aussi beaucoup avec des gens qui sont pas acteurs professionnels. Donc je par exemple dans le film, il y a vraiment un mélange d'acteurs qui sont ou d'actrices qui sont voilà, des gens qui travaillent depuis longtemps et puis des gens qui n'avaient jamais travaillé, quoi.
D'où l'importance de la direction de l'acteur.
On peut discuter du mot direction parce que moi je suis pas j'essaie d'éviter au maximum de diriger, justement. J'essaie de plutôt donner ou alors si on veut dire que diriger c'est donner un cap, alors oui, d'accord, ouais. Peut-être dans ce sens-là, mais en gros l'idée c'est plutôt de...
Vous ne fliquez pas vos acteurs.
Non, pas du tout. J'aime pas ça du tout. Enfin, puis je trouve que ça sert à rien. Donc, je pense qu'à un moment, l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre comment effectivement une situation. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, mon travail, il est vraiment, c'est celui d'installer une situation, de choisir les bonnes personnes, en fait, entre guillemets. Et puis après ça, enfin, en général, les choses se passent bien, quoi. Mmh. Et après ça, c'est vraiment plutôt des ajustements. C'est marrant comme tu fais ça.
Alors. Parce que. Ce que vous dites nous amène à une question que j'avais prévu de poser plus tard, mais le casting.
Oui.
Vous avez dû préparer ça soigneusement à l'avance.
Oui, ça c'est...
Pour les raisons que vous venez d'évoquer.
Mmh. Oui, ça c'est un travail important. Oui. Oui. Surtout que moi je voulais un casting... Enfin, j'aime bien travailler avec des castings qui sont assez hétéroclites, donc avec des gens qui viennent d'horizons très différents. Ici, il y avait des acteurs espagnols, il y avait des acteurs américains... français, belge, donc ça fait quand même...
Notamment dans le rôle d'un flic catalan.
Un belge, oui, exactement, ouais, bien vu, ouais. Enfin bien entendu en tout cas.
Ah, c'est super.
Enfin bon, il y a plein de gens qui l'est. Mais il a un accent qui est très, très bruxellois. Ouais. Enfin voilà, il y a deux policiers, il y en a un qui est joué par Rodolphe Burget et l'autre par Francis Soutens, qui est un des acteurs avec qui je travaille depuis longtemps. Et puis je m'étais dit, ok, mais pourquoi pas en fait la faire jouer des flics catalans, effectivement, alors qu'en fait, pas du tout. Ils ne le sont pas du tout, mais de toute façon, les personnages sont... Les personnages qui ressemblent un peu au Dupont, donc il n'y a pas de problème.
Il y a quelque chose de très jouissif dans votre film, c'est cette galerie de tronches.
Ouais, ouais.
Il y a des tronches dans ce film.
Mais c'était simple l'idée, l'idée c'était de trouver des personnalités, quoi. Donc là, par exemple, les bikers, c'est des bikers, c'est les Hells Angels de Perpignan. Donc c'est des mecs qui n'avaient jamais joué. Donc on est arrivé à Perpignan et on est... Je cherchais des motards.
Ouais.
Et puis en fait, le problème, c'est qu'on tombait que sur des clubs de motards avec des gens très sympathiques, mais des gens qui sont retraités et qui font ça le week-end pour faire des tours dans la
Pampa.
Dans la Pampa, voilà, exactement. Et donc, c'est pas vraiment le profil qu'on cherchait, parce qu'on cherchait des gens un peu plus durs, quoi.
Ouais.
Et un jour, par hasard, je suis tombé dans une rue. Alors, je cherchais vraiment. Enfin, je ne trouvais pas, quoi. Et je suis tombé par hasard sur. il y avait une moto dans une rue, on s'est perdu. Et je vois une moto, je dis tiens, arrête-toi, là, il y a quelque chose à voir. Et puis je suis tombé chez les Hells Angels. Voilà, on m'avait dit ne va pas là-bas parce qu'ils sont. C'est pas des gens fréquentables.
Justement.
Mais oui, mais j'avais pas cherché à les rencontrer. Et je suis tombé dessus par hasard. Et après ça, en fait, la rencontre s'est faite et c'était formidable. Parce que ce sont des gens. Enfin, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas. Super sympa.
En même temps, c'est un peu ce que les Américains appellent des baddies de western.
Ouais, exactement, exactement. Mmh, mmh. Mais alors, ils sont marrants parce que dans le film, ils jouent. Les Hells que j'ai rencontrés sont des mecs adorables qui sont très ouverts.
Très sympa.
Très sympa, très ouverts. Mais ils jouent dans le film un club de bikers qui s'appelle les Perpignan Riders, donc qui n'ont rien à voir avec les Hells de Perpignan, mais qui sont plutôt. Plutôt de droite, quoi, on va dire. Ils sont très, très à droite. Ouais. Et donc, ils n'arrêtent pas de répéter qu'ici, ils sont chez eux. Ils sont en France. Voilà. Ils disent ça par rapport à l'Américain qui débarque. Mais ce qui m'amusait, c'était les paradoxes. Parce qu'en fait, effectivement, ils incarnent, ils sont costumés. Ils ont tous les codes, en fait, des États-Unis. Mais il y a un endroit où... Mais c'est ce qu'on est tous. On est tous des êtres paradoxaux. Et on passe notre temps à revendiquer une identité. Alors que souvent, on est imprégné des autres, quoi, voilà.
De leur problème à prononcer le mot cheeseburger.
Voilà, cheeseburger.
Et en même temps, le paradoxe très comique, c'est qu'ils chaperonnent la fille, quoi.
Voilà, ouais.
Ils ont ce côté-là.
Et oui, parce que le film, en fait, il parle d'un... l'idée de ce film, c'est de parler de l'effondrement d'un monde, d'un monde patriarcal, un petit peu. Donc, c'est-à-dire, en fait, tous les récits, en fait... Tous les archétypes, les personnages archétypaux qu'on a dans ce film sont des mecs qui sont en bout de course et qui incarnent des archétypes qui sont en train de se dissoudre.
Enfin, de se liquéfier.
Oui, c'est la fin de ça, un peu la fin de ça, quoi. Et ça parle de ce monde-là. Et donc le personnage de Jade, en fait, cette jeune fille, cette jeune adolescente, effectivement, elle est entourée que de mecs qui lui disent quoi faire.
Et c'est la
qui lui veulent son bien.
Et c'est la seule jeune personne du film.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc, on y reviendra, ça, ouais, parce que c'est essentiel, à mon avis. Oui, alors, est-ce que vous... vous l'avez dit un peu, mais vous diriez que vous leur avez laissé une place à l'improvisation ?
Oui, alors, moi, j'aime beaucoup ça, l'improvisation. J'ai aucun problème avec ça. Même souvent, je leur demandais plus. Alors, le problème, c'est que moi, j'avais écrit un scénario. Bon, parce que j'ai fait d'autres films où j'écrivais pas de scénario.
Et des dialogues, donc.
Oui, donc j'ai dû écrire des dialogues. Ce que j'aime pas faire, en fait. Je le fais parce que, en fait, quand il faut financer un film, il faut remettre un scénario, mais avec des dialogues. Mais donc, je le fais. Mais quand j'avais dit à mes acteurs, mais surtout les dialogues, ça c'est pas très important parce que ce qui m'embête avec les dialogues, c'est que j'ai l'impression de penser à la place des autres, enfin de parler à la place des autres. Alors que je pense qu'ils savent mieux que. Enfin, je veux dire, un Hells Angels saura mieux que moi ce qu'il faut raconter sur une moto. Enfin, je veux dire, j'y connais rien, quoi. Donc, forcément, je vais être approximatif. Donc, je préfère que ce soit les autres qui amènent leur imaginaire. Donc souvent, je leur ai proposé ça, de prendre le sens d'une scène, mais de le changer. Et il y en a qui l'ont fait de plus ou moins largement. Par exemple, les deux policiers, Rodolphe Burger et Francis Houtens, ça, c'est que des scènes d'impro, quoi. Voilà, tout est improvisé.
C'est très réussi. Ouais, ouais. C'est drôle comme tout.
Ouais, Mais donc, je me permets, parce que vous dites, je préfère laisser justement aux personnes qui savent mieux, en fait, mais que ce soit des personnes ou des personnages. Parce que là, vous prenez l'exemple de Rodolphe Berger, il n'est pas policier.
Non, non.
Donc, c'est...
Oui, en fait, en gros, je trouve que les autres sont toujours plus intéressants que... moi, je suis là pour amener une sorte de contexte, quoi. Et après, à l'intérieur de ça... voilà, c'est ça. Moi, ce que j'aime, si je choisis les gens, c'est pour leur imaginaire. Qu'ils soient acteurs, pas acteurs, en fait. C'est tout.
Passons, si vous voulez, des acteurs aux personnages.
Ouais.
Il n'y a pas de psychologie chez ces personnages.
Ouais, ouais, ouais.
On a des types humains. Ouais. On a des truands à la petite semaine, des bouffons, des pères ou des figures de pères qui ne s'assument pas. Il y a une exception, à mon sens, c'est la fille.
Ouais.
Elle a peut-être une personnalité, une psychologie, et elle est le personnage central.
C'est vrai, ouais.
C'est écrit comme ça.
C'est tout à fait écrit comme ça. Parce que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est en fait, c'est le film, c'est une sorte c'est une fable, quoi. C'est une sorte de métaphore, une fable qui parle de l'effondrement de ce monde-là, ce monde qui était composé d'hommes, et comment cette jeune fille, en fait, qui est chaperonnée, va s'extraire, en fait, de ce monde-là.
Avec difficulté.
Avec difficulté.
Comme une chrysalide. Oui.
Voilà, c'est ça. Oui. Ça parle d'un passage. C'est une sorte de passage accéléré de l'enfance à l'âge adulte.
Oui.
Et avec aussi une prise de conscience qu'en fait, que les pères, mais au sens le plus large du terme, hein, que les pères mentent, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les récits en fait, qui nous sont livrés par les pères, qui nous ont été livrés par les pères, souvent mentent. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils charrient une vision du monde qui est fausse.
Alors c'est marrant, de ce point de vue, pour rester avec ce personnage, vous savez qu'on parle de roman d'éducation, où un personnage se fait à travers un roman. En ce sens-là, c'est un film d'éducation.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est un personnage qui devient lui-même. Quoi.
Ou récit initiatique, peut-être.
Récit initiatique, c'est ça. Mais en fait, quand je l'ai imaginé, Jade, quelque part, c'est un peu moi. Donc, en fait,
Madame Bovary, c'est moi.
C'est
Flaubert.
Voilà, c'est ça. Donc, Jade, c'est un peu moi. C'est dans le sens où... c'est-à-dire que moi, quand j'étais adolescent, toute mon adolescence, j'étais vraiment abreuvé de films américains et avec des choses intéressantes là-dedans et des choses pas intéressantes. Et avec surtout une vision du monde qui était assez caricaturale, quoi. Avec qu'elle soit politique, qu'elle soit sur les rapports entre les hommes et les femmes, la vision des mecs. Et donc, c'était tous les films de. Mais j'étais dans des internats de garçons et on nous montrait des films vraiment. Mais en même temps, ça fait partie de ma cinéphilie, quoi. C'est-à-dire que, en fait, quelque part, j'ai été éduqué avec ça. Mais quand je parle de mensonges des pères, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a éduqué avec des récits qui étaient, en fait, qui étaient faux, quoi.
C'est un monde viriliste.
Voilà, c'est ça.
Alors, on revient un peu au décor, mais j'aimerais surtout revenir à l'image. Bon, il est rare, finalement, hein, statistiquement, dans le cinéma d'aujourd'hui, de trouver un film où l'image a été aussi travaillée. Je serais tenté de parler de la plastique du film. Les couleurs, la lumière, l'éclairage, la construction des plans. C'est marrant parce que vous venez du théâtre, mais vous avez un sens très, très cinématographique très fort. Je pense aux parties que vous êtes arrivé de tirer de la chevelure de l'actrice, par exemple. C'est tout ça, là. Et donc, la question que j'aimerais vous poser à propos de ça est double. D'abord, j'imagine qu'il y a eu un travail préparatoire en amont du filmage qui a dû être lourd, parce qu'on n'improvise pas des plans comme ça. Et ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que derrière votre... Bon, vous dites que vous êtes un metteur en scène de théâtre, mais vous n'avez jamais envisagé de faire de la peinture ou du dessin ou...
Écoutez, je pense que vous avez bien regardé le film, en tout cas, mais j'ai fait du dessin pendant presque 20 ans, quoi, avant de faire du théâtre. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est vrai que j'ai, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et j'ai arrêté d'en faire, c'est ça qui est curieux, à partir du moment où j'ai commencé à faire du théâtre, en fait.
C'est-à-dire à partir pas du moment... cinéma, du
non,
théâtre.
En fait, du théâtre. Quand j'ai fait du théâtre, du dessin de façon autonome et un peu de peinture aussi, c'est vrai. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire du théâtre, au début, je commençais à faire des croquis comme si je préparais en fait les choses. Et puis je me suis dit, en fait, ça ne sert à rien. Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas les storyboards, ce n'est pas les dessins préparatoires, c'est le vivant, quoi. C'est comment le vivant, justement, va venir contredire, en fait, justement, tous les plans. Donc j'ai arrêté de dessiner. Parce que pour le dessin, devenait quelque chose qui était comme une sorte de... façon de se rassurer. Voilà. Donc après, je me suis dit, non, il faut faire confiance au réel, en fait, à ce que propose le réel. Et voilà, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un regard, effectivement... plastique sur les choses, et notamment pour ce film-là, on a beaucoup discuté avec mon chef opérateur Florian d'abord de caméra, de qu'est-ce qu'on a utilisé comme caméra, comment est-ce qu'on allait éclairer le film,
d'angle de prise de vue,
d'angle, de la façon de découper le film, de la façon dont on allait les endroits. Donc effectivement, on a fait des repérages quand même importants. Et on a, et voilà, on avait quelques références en tête, et le film, ouais, je pense que effectivement on y accorde beaucoup. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'important. Voilà. Après, c'est toujours trouver une sorte de balance entre quelque chose qui soit. Enfin voilà, l'idée n'est pas que ça devienne maniériste, parce que. Mais enfin bon, en même temps, ça veut rien dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a dit il y a pas longtemps, oui, c'est un film maniériste, mais dans le très bon sens du terme. Donc, enfin, y a pas de... on s'en fout en fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé.
Non, mais c'est un plaisir de cinéma, c'est un plaisir à regarder une image qui a été travaillée.
Oui, c'est vrai.
Il suffit pas de promener une caméra. Hein, je veux dire. Moi, je peux le faire aussi, mais c'est tout, quoi.
Oui.
Ok. Alors, j'aimerais insister sur les décors, parce que tout ça, c'est lié. Et je pense à deux plans en particulier. J'aimerais rentrer dans les détails à partir des décors, rentrer dans le film à partir des décors.
Très bien.
Je pense à deux plans en particulier. Ce plan au début, où on voit un projecteur en extérieur, plan qui revient d'ailleurs. Il revient quand l'autre Laurent se fait tabasser. Et on pourrait aussi citer la scène où la fille fait visiter la maison de son oncle. Là. Elle lui montre une salle de billard en cours d'aménagement, mais ça ne ressemble pas à une salle de billard. Ça ressemble beaucoup plus... à autre chose. Quel est le pour vous, comment fonctionnent ces scènes? Qu'est-ce que vous attendiez de ces scènes?
La première scène, donc avec le projecteur, c'est la scène d'ouverture du film, quoi. Premier plan. Ben, c'est un plan très étrange parce qu'il est. Moi, je l'aime bien ce plan. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on avait notre caméra. Nous, on travaille avec une caméra qui est une caméra du début des années 2000. Donc, on travaille avec une vieille caméra. Expressément parce que c'est une caméra qui a peu de définition. Donc, genre justement, parce qu'on s'est dit, tiens, enfin, ça part d'une idée qui est un peu théorique, mais en même temps, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, c'est de dire moins d'informations, plus d'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, si on donne moins à voir, le spectateur, il y a plus de place pour le spectateur. Pour qu'il
projette lui-même. Voilà,
c'est ça, exactement. Donc, on ne travaille pas avec du matériel. On pourrait le faire hein, avec des caméras super HD, en 4K, en 8K, je ne sais pas combien on est actuellement. Enfin, bref. Mais non, on décide de travailler avec une caméra ancienne. Et puis, c'est quand même une caméra numérique, mais là, un capteur 16 mm. Et on se rend compte que quand on bricole des choses, parce que Florian est une sorte de geek des caméras, donc il rajoute des optiques Cook. Des années 70 pardon, sur la caméra, etc. Il y a un flair qui apparaît, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un flair, donc c'est une sorte d'aberration, la lumière vient se diffracter sur l'optique et on a comme une sorte de ligne de lumière qui apparaît. On peut voir dans les films de Spielberg, notamment dans les années 70, il y avait beaucoup de flair comme ça. Ils ont repris ça dans des séries comme Stranger Things, comme un truc un peu vintage. Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait ce flair, mais que ce flair était rectangulaire. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est une caméra numérique, mais qu'en même temps, il y a ces optiques et qu'il y a ce capteur 16, tout d'un coup, voilà, il y a un truc particulier qui se passe et on a des flairs qui sont rectangulaires. On s'est dit, tiens, c'est marrant, ça crée un accident et on va le garder. Donc ça donne cette image un peu étrange, un peu fantomatique, avec cette lumière très, très particulière. Et j'ai trouvé que c'était un plan qui était beau pour ouvrir le film, comme un plan un peu mystérieux. Mais il est le fruit d'un accident, quelque part. Et puis il revient, effectivement.
Il revient dans le film.
Une deuxième fois. Et la salle de billard, alors là, je ne sais pas très bien quoi. Enfin, je vois très bien le plan, mais.
Ça ne ressemble pas à une salle de billard, ça ressemble plutôt à un endroit où on enregistrerait quelque chose. Il y a déjà.
On enregistrerait quelque chose, c'est-à-dire.
On filmerait quelque chose.
Ah oui, d'accord. Ben, oui, mais c'est des lieux.
Polyvalents.
Non. C'est on a tourné ça dans une maison effectivement qui était. On est tombé chez un type qui était un. C'est-à-dire en fait ce qui est un peu particulier, c'est que les extérieurs de la Maison Blanche donc sont tournés. Ben, c'est cette Maison Blanche, c'est un château qui existe. Et puis alors à l'intérieur en fait c'est filmé ailleurs, c'est dans une autre maison. On a filmé dans un château qui se trouvait à quelques kilomètres de là et qui était le château qui appartient à une des toutes grosses fortunes de France. Et on est tombé dans une espèce d'endroit complètement improbable. Et encore dans le film, on montre que un dixième du décor, mais voilà, il y a tout dans cette maison. Il y avait une discothèque à l'intérieur de la maison. Il y avait des...
Les cavernes d'Ali Baba.
Oui, oui, complètement délirante. Bon, bref. Et donc là, j'ai travaillé avec vraiment avec ce qu'il y avait, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y avait 7 salles de bière, là. Mais c'était une chance, parce qu'en fait, c'était des décors qu'on n'aurait jamais pu construire nous-mêmes. C'était trop...
Justement.
Trop réel, trop de mauvais goût.
Justement, mais le décor, je pense à une autre scène où le décor définit le paysage.
Ouais.
Le personnage, pardon.
Ouais.
La scène où elle va dans sa chambre avec son oncle. Mais cette chambre lui ressemble tellement à cette fille au début.
Oui.
Vous voyez ?
Oui, bien sûr. Ouais.
C'était un procédé intéressant pour de caractérisation.
Oui, tout à fait. Ben, oui, c'est vrai que les décors, c'est... Dans l'idéal, c'est ça.
C'est un tremplin.
Dans l'idéal, ça raconte un peu les personnages. C'est vrai que dans l'idéal, quand ça fonctionne, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais.
Ça la situe au début. Mmh. Elle va évoluer, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Alors, il faudrait aussi parler de la thématique. Alors, bien sûr, il y a le thème du double, qui est superbement bien mené. Je pense aussi à une scène où le personnage, l'oncle, il est à quelque part. Et il y a une photo sur sur lui, et puis les miroirs, les plans à miroir, tout ça. Donc ça, c'est un des thèmes centraux du film.
Mmh. Oui, tout à fait, c'est la question du double. Et puis c'est la question des faux-semblants, c'est la question encore une fois, des... Enfin, voilà, c'est un film qui ne joue que avec la question du double. Voilà, c'est le rapport entre l'Europe et les États-Unis. C'est des décors qui sont en même temps américains, qui sont en même temps européens. C'est des personnages qui sont... c'est la question des jumeaux, c'est de la question du mensonge, c'est de la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Mm-hmm. C'est la question de l'imaginaire, finalement.
C'est la question de l'imaginaire.
Comment l'imaginaire s'imbrique avec la réalité, comment on confond les deux. C'est, j'ai l'impression... Pardon, je m'immisce... Je casse la baraque à chaque fois. Moi. Mais j'ai l'impression que c'est tout le processus du film, c'est-à-dire comment vous entremêlez, vous, votre propre imaginaire qui s'est construit avec tous les films américains dont vous parliez, comment tout ça a fait sens et comment vous réagencez, vous déconstruisez tout ça.
C'est ça.
Avec des petites... comme une sorte de bijou qui reflèterait avec tous ces pans cassés.
Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais.
Et justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Sophie, l'Amérique est omniprésente dans ce film. Mais il s'agit beaucoup d'une Amérique de cinéma. Et est-ce que vous diriez que c'est quand même votre influence principale, le cinéma américain ? Vous l'avez répondu un peu, mais...
Non, c'est pas du tout mon influence principale, mais disons qu'il se trouve que... Comment dire ? C'est difficile de passer... Enfin, moi, je... Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en tout cas en Belgique, moi, quand j'étais, encore une fois, adolescent, j'étais vraiment... C'était le cinéma américain qu'on regardait avant toute chose, quoi. Donc,
ici aussi.
Un petit peu moins.
Peut-être un peu moins.
Par rapport à la Belgique. Peut-être
que en Belgique, le fait qu'on est dans une culture un peu plus bigarrée, avec une influence... Enfin, qu'on a la Flandre aussi. Moi, j'étais aussi dans les internats en néerlandais, donc...
Ouais.
Peut-être les États-Unis sont peut-être encore plus présents, je ne sais pas. Je m'en rends compte depuis que je présente le film, c'est peut-être moins une problématique française, quoique bon, mais en tout cas c'est vrai que la culture américaine, j'ai eu accès à tout un tas d'autres, enfin un cinéma européen évidemment, même asiatique, tout ça par après, mais en tout cas enfant, adolescent, c'était vraiment ça qu'on nous donnait à voir principalement, quoi. Oui. Donc c'est un peu c'était une sorte, le film c'est quelque part, c'est une sorte de règlement de compte par rapport à un héritage, mais qui est en même temps un règlement de compte tendre, ironique, tout ça, quoi.
Ok, mais on peut continuer, on peut se donner un peu plus de temps. Alors oui, j'aimerais revenir sur la notion de, je ne sais pas si on a employé ce mot, de décalage.
Oui.
Et là, j'entends par décalage le fait qu'on finit par trouver les personnages. On l'a dit, mais j'aimerais y revenir. On finit par trouver les personnages, au moins les personnages principaux, là où on ne les attendait pas. Au début, la fille semble un peu faux-folle et elle va dévoiler toute autre chose. Je me garderai bien d'en dire plus pour ne pas gâcher le plaisir. On peut dire la même chose de sa belle-mère, qui va se dévoiler autre que ce qu'elle est au début, ou de son oncle. Et ça fait penser à cette phrase de Shakespeare, « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs, et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. » Alors vous avez dit au début, mais vous avez répondu finalement, ça je ne le savais pas, que vous, à la base vous faisiez du théâtre. J'imagine que vous êtes très influencé aussi par les grands auteurs dramatiques.
Oui, et surtout par Shakespeare justement, donc bien vu. Mais non, je dis ça parce que par exemple, justement, ce qui est, pour moi, Shakespeare, ce qui est le plus important chez Shakespeare, c'est justement cette capacité. Bon, ce qu'on n'a pas dit en fait, ce que j'aurais peut-être dû dire, mais c'est que c'est un film qui est un film un peu transgenre, dans le sens où il joue avec la question du genre. C'est un film qui joue, qui n'arrête pas de muter, qui s'amuse à jouer avec la question du genre au cinéma, voilà. Et qui questionne le genre aussi, enfin la question de la place des hommes et des femmes, tout ça. Shakespeare m'a toujours beaucoup intéressé parce que justement c'est un auteur que je pense être totalement transgenre, si on peut dire ça. C'était un auteur baroque qui n'avait aucun problème à mélanger les genres en fait à l'intérieur de son travail. C'est-à-dire si on regarde n'importe quelle pièce de Shakespeare, ça mélange le drame au burlesque. Le tragique, au grotesque.
Avec les bouffons.
Comment ?
Avec les bouffons.
Avec les bouffons, voilà, c'est ça. Et donc, le statut des. Et véritablement, là, vous avez vu juste, parce que par exemple, les deux policiers, ils ont vraiment le statut de personnages de bouffons shakespeariens, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont reprendre en charge la même thématique, mais d'un point de vue burlesque. C'est-à-dire que là où le personnage principal a une histoire, il raconte une histoire dramatique autour d'un adultère. Ben, la seconde après, c'est traité par les policiers, mais sous un mode burlesque. C'est toujours pour dire ça, en fait, que en fait, tout est tragique et en même temps grotesque.
Et en quelque sorte, le côté farce des bouffons est un commentaire par rapport à la scène précédente.
Ouais.
Alors oui, vous avez dit mélange des genres. C'est à la fois un western, un polar, une comédie, une tragédie, une comédie que devient une tragédie, un film d'action... Il y a tout ça.
Ouais.
Et peut-être que j'en saute. Il y a peut-être autre chose encore.
Non, c'est vrai. Mais ça fait ça. Ça fait un film, justement, qui justement est peu identifiable, mais qui raconte plutôt une sorte de fable sur l'effondrement de certains récits. C'est ça que j'ai voulu faire.
Ouais.
Alors, et c'est ce qui rend le film aussi, j'en m'en rends bien compte aussi, parfois, qui déroute un peu les gens. C'est justement, c'est que, comme, en fait, bizarrement, le film, il est faussement simple. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se disent, mais. En fait, on ne comprend pas. C'est un polar, c'est ça ou c'est pas ça ? Donc les gens s'attendent à se raccrocher à quelque chose, alors qu'en fait, le film raconte. Il utilise en fait certains codes et certains archétypes pour parler de quelque chose d'autre, qui est de l'effondrement justement de ces récits, de ces archétypes. Voilà, bon. Parfois, ça crée des malentendus.
Voilà. Alors justement, au fond, à travers cette galerie de personnages un peu falots, qui triche, qui se cache, qui ne s'assume pas, ce passage de la tragédie à la comédie. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire, qu'on est témoin en tant que spectateur d'un monde en pleine déliquescence. Est-ce que ça correspond à la vision que vous avez du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ?
Bah oui, je pense qu'effectivement, il y a un monde qui est en train de changer, heureusement. En tout cas, ici, chez nous, en Europe, on va dire. En tout cas, il y a une réflexion qui est menée sur la question des récits que nous charrions à travers nos films et autres médiums. C'est-à-dire, en fait, quels sont les... C'est quoi les personnages qu'on met en scène ? Ils sont pris en charge par quel type de personnes ? Qu'est-ce qu'on raconte ? Oui, ça, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de changer, heureusement.
Derrida aurait aimé votre film, mais c'est un film sur la déconstruction.
Oui, je pense que c'est un film sur la déconstruction,
tout à fait. Pour finir, un mot sur la musique.
Alors la musique, ça c'est un... Oui, c'est super, enfin, j'aime beaucoup la musique du film, mais c'est un compositeur belge, Thomas Turin, avec qui je travaille depuis le début, depuis 20 ans, en fait, et qui a beaucoup travaillé donc, avec moi au théâtre, et là, il a vraiment fait une partition également, on va dire, un peu baroque, qui passe en même temps de la flûte de Pan à des morceaux plus électro, à des choses... même il y a du Bach revisité, une fugue de Bach. Voilà, on a essayé de créer une partition aussi qui soit un peu surprenant.
Caméléon.
Un peu caméléon, exactement.
D'accord. Et est-ce que vous continuez à diriger au théâtre ou est-ce que vous êtes consacré uniquement au ciné?
Non, je fais des deux. Je continue à faire du théâtre,
Sans choisir, les deux sont...
Alors, sans choisir... non, je ne choisis pas. Pour l'instant, je n'ai pas choisi. Je décide de ne pas choisir.
Vous avez un projet en cours au ciné?
J'ai un projet. On prépare pour l'instant un... J'ai fait des répétitions de théâtre il n'y a pas longtemps, justement. Il y a un projet de cinéma, effectivement, avec les... Et on va faire un spin-off. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce terme un peu barbare. C'est une sorte de suite. On extrait les deux policiers, donc Rodolphe et Francis, de l'histoire, les deux flics. Et on va faire
Les flics catalans.
Oui, les flics catalans, exactement. Voilà, c'est ça, exactement. On les extrait du film et on fait ce que les Américains appellent un spin-off, c'est-à-dire, en fait, on va créer un film rien qu'autour d'eux. Un film totalement improvisé, mais qu'on va tourner en Alsace, attention, très important. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont placardisés en Alsace après leur enquête foirée à Perpignan. Et on va voilà, il est prévu de tourner ça en juin, voilà. Mais ce sera un film qui sera totalement inventé au cours de son tournage.
Moi j'avais entendu en juin, parce que c'est en juin marijuana, mais non, en juin.
Alors il y a une histoire de marijuana, ça c'est sûr, c'est au mois de juin.
D'accord.
Il y a une question que j'ai oublié de vous poser, mais bon, vous y avez répondu, c'est la dimension ironique du film.
Oui, c'est un
film très ironique, évidemment.
Tout à fait.
Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci d'être venu.
Mais c'est moi qui vous remercie pour toutes ces questions.
Merci.
Vous avez bien vu le film, en tout cas.
Merci beaucoup. Moi, je repars avec 1000 questions, mais ça tombe bien puisque vous êtes là donc, pour une rencontre avec le public à la suite de la projection du film à 16h30 au Navire.
Yes.
Et vous serez là donc à 18h30 pour une rencontre
tout à fait.
Avec vous.
Génial.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, en effet.
Merci.
Merci René et merci Nico à la réalisation. Un autre rendez-vous. Là, si vous nous écoutez tout de suite, il y a 14h, la carte blanche au Festival international du premier film d'Annonay. À voir, allez, c'est dans un peu plus d'une heure, le temps de manger, d'y aller, c'est au Navire. Et nous, on se retrouve à 17h pour une autre émission avec Fred Poulet et Gilles Coronado qui viendront nous parler de leur concert, la D985, tout à l'heure à 20h30. Ciao, à tout à l'heure.